Je vais essayer d'être un peu plus court pour la PNL, mais je voudrais vous livrer, pour commencer, ce petit conte-là, ou cette petite anecdote, qui est relatée donc, par René de Lassus, qui a écrit aussi sur l'énéagramme. Hein, donc il a vraiment une palette assez complète dans ce domaine-là. Et voilà. Un swami se promène avec ses trois disciples dans les jardins d'un ashram. Voyant une limace qui dévore une salade, le premier disciple l'écrase du pied. Le deuxième dit alors « Maître, n'est-ce pas un péché que d'écraser cette créature ?» Le maître lui répond « Tu as raison, mon fils. » « Mais il mangeait notre nourriture, n'ai-je pas bien fait ?» dit le premier. Le maître lui répond « Tu as raison, mon fils. » Alors le troisième dit alors « Ils disent tous les deux des choses contradictoires, ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. » Et le maître lui répond « Tu as raison, mon fils. » Je crois que c'est un super résumé. Je pourrais m'arrêter là. Tout est relatif, vous comprenez. On n'est plus dans un fondement, hein. On n'est plus dans un référent moral, on n'est plus dans une parole qui se transmet. Chacun fait son trip comme il l'entend. Et tout le monde a raison. Vous voyez. Alors, la PNL a été élaborée par Richard Bandler et John Grinder. Donc, dans les années 70, encore une fois aux États-Unis, vous voyez, cette côte ouest des États-Unis a été particulièrement florissante. Il faut savoir aussi que c'était pendant la guerre du Vietnam et qu'il y a un certain nombre de soldats qui avaient fait le Vietnam et qui revenaient totalement traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, hein, de choses absolument atroces. Hein, voilà. Et donc ces gens-là revenaient avec des traumatismes qu'il fallait essayer de trouver des solutions pour essayer de leur donner des voies de guérison. Et les Américains, comme les Anglo-Saxons, sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils sont très concrets et ils sont très observateurs pour être vraiment opérationnels le plus rapidement possible. Je ne sais pas. Petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu Sarkozy et puis comment il s'appelle l'anglais là, le Premier ministre Cameron en Libye. Hein, quand ils ont fait leur discours, Sarkozy était en train de parler de la théorie, hein, des droits de l'homme un peu, hein, et puis Cameron, lui, il s'occupait des hôpitaux, de comment rétablir l'eau, etc. Vous voyez, ces deux perspectives un petit peu que l'on va retrouver, hein, dans ces techniques-là. Vous voyez, ces techniques se veulent absolument pragmatiques, sans aucune réflexion d'ordre un peu épistémologique réellement. Savoir qu'est-ce que l'on fait quand on agit de cette manière. Vous voyez, il n'y a pas de réflexion distanciée. Hein. Nous avons peut-être cette propension, nous les Français, à avoir une analyse distanciée, un peu philosophique. Savoir à quoi. Les Anglais ou les Américains sont beaucoup plus pragmatiques dans leur technique, si vous voulez. Et précisément, la PNL va essayer d'observer donc les modèles. Les modèles. Qui permettent de voir comment un fonctionnement de telle ou telle personne en telle ou telle discipline va pouvoir être le meilleur, si vous voulez. Donc on va essayer de modéliser ce qui fonctionne le mieux pour essayer de l'intégrer. Donc vous voyez, la programmation neurolinguistique a procédé par cette observation de ce qui se fait de mieux. Donc la modélisation. Et puis, un certain nombre de protocoles pour reproduire ce qui fonctionne le mieux, de cette manière-là. Voilà. Alors, ils vont aussi travailler sur le mimétisme comportemental. Telle personne va agir de telle manière et on va essayer de mimer ce qu'il fait pour essayer d'optimiser la relation. Dans les techniques, par exemple, de PNL, à usage des commerciaux, se sont aperçus que si vous modelez votre gestuelle, vos expressions, votre intonation de voix sur votre interlocuteur, vous allez d'emblée rentrer dans une connexion avec lui. Vous voyez ? Il y a une forme d'instrumentalisation extrêmement subtile, vous voyez, du comportement humain qu'on va essayer de décalquer pour être le plus, vous voyez, dans l'opération qu'on doit faire. Un commercial va donc calquer, hein, vous voyez, ce que fait son interlocuteur pour essayer de rentrer au plus près de son intimité, de son mode de fonctionnement pour pouvoir lui vendre plus facilement tel ou tel produit. Voilà, par exemple. Technique aussi, donc, qui la PNL peut agir dans des techniques de vente. Voilà. Comment ? Alors, PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Et comme son nom l'indique, programmation, vous avez un aspect de programmation, de choses inéductables. Par exemple, Pavlov, vous connaissez l'histoire des chiens de Pavlov, hein ? C'est le réflexe conditionné. On s'est aperçu que en donnant un pauvre Pavlov, en donnant à manger à des chiens et en agitant une clochette juste avant, vous voyez, le chien salivait parce que après on met que la clochette et le chien a assimilé la clochette avec l'aliment. Vous voyez, donc après il fait des trucs un peu plus vicieux parce qu'il met un choc électrique, enfin bref, pour perturber un peu justement le réflexe et pour voir un peu le souvenir que peut avoir de manière réflexe le chien par rapport à ce qu'il entend. Bon, je fais ça en très court, mais vous voyez, au niveau de la programmation neurolinguistique, on va de cette manière-là aussi faire des reprogrammations, surtout quand il y a eu des choses qui ont été très traumatisantes. Souvenirs d'enfance, perspectives de traumatismes graves, etc. On va essayer de remodeler, d'une certaine manière, la mémoire. En faisant revivre l'événement et en essayant, comme au cinéma, où vous voyez un film, on va essayer de couper la séquence qui a été traumatisante pour en mettre une autre à la place. Donc, vous voyez, ce sont des exercices de programmation. Neuro, parce que ça passe par nos fibres, par notre neurologie périphérique, nos cinq sens, et linguistique, parce que je crois que c'est Glinder, était lui-même linguiste, et il a beaucoup travaillé sur la question du langage, la grammaire, etc. Parce qu'aussi, on peut dire que d'une certaine manière, par rapport au champ du réel, la langue est une forme de programmation par rapport à l'appréhension que l'on peut avoir du réel. Chaque langue a sa spécificité qui nous donne une certaine approche de la réalité. Donc, vous voyez, il a travaillé. Donc, il y a eu des études extrêmement sérieuses faites par ces personnes sur la programmation neurolinguistique. Il y a aussi la question d'ancrage. La question d'ancrage est très importante. Là, je vais peut-être dire un mot là-dessus, parce que quand il y a eu un traumatisme ou quelque chose de difficile à vivre, pas seulement par rapport au passé, mais aussi une programmation que l'on peut faire pour réussir mieux un examen, ou être dans une relation plus détendue avec tel ou tel interlocuteur. On peut aussi travailler ça avec les questions des ancrages. Alors, on met la personne dans une situation où elle va essayer, par tous les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, essayer de reproduire un climat le plus paisible possible. Donc, on choisit un paysage que l'on aime bien ou une situation qui nous a été particulièrement heureuse et on va essayer de la refaire assez souvent, vous voyez. Et on va associer à cette séquence un petit geste qui est par exemple se tapoter comme ça ou se remettre les lunettes, enfin vous voyez, et un peu comme la cloche de Pavlov faisait saliver parce qu'elle était associée à la nourriture qui allait suivre, eh bien si on reproduit, si vous voulez, cette séquence-là suffisamment et en l'ancrant, vous voyez, par un petit geste, eh bien on va pouvoir rétablir le climat qui va nous permettre de mieux vivre telle ou telle situation. J'étais clair dans mon explication ? Oui ? Voilà. C'est très intéressant parce que vous voyez, il y a une forme, d'une certaine manière, d'observation d'une réalité, mais d'instrumentalisation aussi de cette réalité pour la rendre performante. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Cependant, si encore une fois, on a vécu un événement traumatisant, pourquoi pas un péché, hein, qui va, d'une certaine manière, être quelque chose qui nous pèse sur le plan de notre morale. Si nous essayons de l'évacuer de cette manière-là, ça pose quand même un problème d'ordre moral. Vous voyez ? Et on peut aussi faire en sorte que tout notre monde puisse être progressivement instrumentalisé de cette manière-là. Notre relation à l'autre, etc. Et finalement, nous nous enfermons dans quelque chose qui est peut-être détendant, peut-être heureux, si vous voulez, mais qui nous empêche encore une fois à cette relation avec l'altérité. Ça pose quand même quelques questions. Parce que si on va très loin dans l'instrumentalisation des moyens, nous sommes éventuellement dans des néoformes de culte idolâtrique. Si nous instrumentalisons le moyen comme étant une fin en soi dans notre vie, quelque part, nous allons idolâtrer le moyen. Cette histoire d'ancrage, ma mère avait son oncle qui était prêtre. Et un jour, ce père prêtre était décédé, et on est tombé sur une petite boîte lui appartenant, et dans cette petite boîte, il y avait une croix. Et sur cette croix, il y avait une petite cupule incurvée. Et j'étais assez étonné de voir une petite croix en bois avec une petite cupule en métal incurvée. Et je dis à ma mère, à quoi ça sert cette histoire-là ? Elle m'a dit, quand mon oncle allait visiter des malades, eh bien, il lui donnait cette petite croix-là, et le malade mettait son pouce ou un doigt pour, presque à bout de force, maintenir cette croix. Vous voyez, c'est une forme d'ancrage, mais un ancrage qui fait sens. Vous voyez ? Qui donne l'orientation même de ce que l'on est en train de vivre et qui nous relie d'une certaine manière à la passion du Christ. Quand vous aviez dans les maisons hospitalières, vous savez, il y avait à Saint-Jean d'Arc, hein, il y avait les mouroirs, hein, les gens qui étaient en fin de vie, on les mettait là. À Grunewald, une sorte d'hôpital, comme ça, où on mettait les gens en fin de vie, mais il y a le grand retable de Grunewald, où on voit le Christ crucifié et Jésus qui est sur la croix, et Jean-Baptiste qui désigne l'agneau de Dieu. Vous voyez, tous les sens sont réorientés vers une finalité spirituelle. Et toute la problématique de nos thérapies, si vous voulez, c'est de les faire un en soi, comme si c'était la clé, vous voyez, qui nous fait échapper du sens ultime, comme si ces techniques nous rendaient hermétiques à un sens métaphysique, à un sens ultime. C'est là où est le problème. Le problème n'est pas dans la technique en soi. Elle peut avoir des choses qui peuvent être bonnes, vous voyez, et même qui peuvent aider sur le plan du comportement. Le problème, c'est d'en faire une finalité. Et là, nous sommes dans des perspectives idolâtriques. Je vais revenir à l'histoire du serpent et l'histoire du dragon. Le dragon, on l'a vu la dernière fois, manifeste les quatre éléments de la terre. Objet de toute l'initiation, hein. Dans les sociétés secrètes, l'initiation aux esprits de la terre, aux esprits de l'air, aux esprits du feu et aux esprits de l'eau. Tout le chamanisme est basé aussi sur cette perspective de rentrer en contact avec l'esprit des éléments. Le New Age nous en parle aussi. Et on peut aller très loin dans cette connexion avec l'esprit de la matière. Cependant, c'est aussi un culte idolâtrique. quand Élie fait cette expérience où il entend le tonnerre, l'Esprit de Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il n'était pas dans le feu de la foudre. Il n'était pas dans les vagues de... Enfin, la pluie, l'ouragan, voilà. Il n'est pas dans l'esprit des éléments. Vous voyez, comme on peut aujourd'hui essayer de le retrouver à travers ses techniques et ses moyens. L'esprit était dans ce silence, dans cet indicible, dans ce lieu où finalement le cœur est redisposé à une rencontre avec l'inouï qui le dépasse. C'est le risque de ces méthodes est finalement d'obstruer ce temps du silence où nous pouvons rentrer en résonance avec la parole de celui qui nous a créés. Saint Michel terrasse le dragon. Il ne le tue pas. Le dragon, il est simplement sous ses pieds. Et l'esprit des éléments que représente le dragon, eh bien, est maîtrisé par Saint Michel. Nous n'avons pas à nous confondre avec la matière du monde. Nous n'avons pas à nous confondre avec la matière du monde. Nous sommes faits pour une relation qui est autre, qui est avec le tout autre. Et c'est précisément l'objet de notre combat chrétien. Nous verrons par la suite combien, à travers ce que l'on propose aujourd'hui aux enfants, les hautes initiations qui leur sont proposées sont toujours en lien avec ce dont je vous parle. C'est le combat de toujours à toujours, c'est le combat contre l'idolâtrie. Baal, les disciples de Baal, étaient aussi sans doute des disciples qui rentraient en transe, peut-être aussi avec des substances hallucinogènes, et ils avaient l'impression de faire l'expérience de Dieu. Et Élie, armé de sa seule expérience d'avoir écouté dans le silence une autre parole, peut combattre tous ces idolâtres. Aujourd'hui, il ne s'agit pas vraiment, quand nous rencontrons des gens qui pratiquent ces techniques, d'être forcément dans la défense, mais d'être dans une proposition d'une autre parole qui finalement nous libère et nous fait redécouvrir un souffle inouï qui traverse notre monde, un souffle qui nous est donné gratuitement et que nous n'avons pas à prendre, mais que nous avons à recevoir, comme quand nous recevons l'Eucharistie. C'est un don ineffable, celui de la vie. Et ce don-là aussi, c'est le don de la vie surnaturelle, de la vie en Christ, qui nous donne une vie immortelle.